Ces informations qui ont lancé le débat public sont cruciales. Je suis persuadé que la possibilité pour le peuple de contester son gouvernement et de lui demander des comptes est un des principes sur lesquels les États-Unis d'Amérique ont été fondés à l'origine. Donc, si nous voulons préserver la sécurité nationale, nous devrions préserver ce principe avant tout.
Un agent américain, dégoûté par les pratiques secrètes de son pays, qui décide de les révéler au monde au risque de sa liberté et de sa vie, et qui sera condamné à un exil sans fin. Vous pensez sans doute à Edward Snowden, qui en 2013 a révélé l'existence d'un programme américain de surveillance de masse. Mais ce lanceur d'alerte eut 40 ans plus tôt un illustre prédécesseur.
Je suis Philip Agee, je suis américain. J'ai travaillé dans la CIA pour 10 ans et maintenant je suis écrivain.
Philip Agee a été un espion à la CIA avant de démissionner en 1969 et en 1975 de publier Inside the Company CIA Diary, en français journal d'un agent secret. Un livre choc où il raconte le quotidien d'un espion ordinaire et surtout révèle pour la première fois les coups tordus pratiqués secrètement par les États-Unis en Amérique latine. Espionnage, corruption, organisation de coups d'État, soutien aux juntes militaires et à leur police, formation à la torture. Et Philip Agee va parcourir le monde pour dénoncer ce qu'il appelle les crimes de l'impérialisme américain. France Inter, 9 février 1976.
Pourquoi avez-vous quitté la CIA ?
J'ai démissionné de la CIA parce que j'étais en opposition avec ce qu'elle faisait.
Pourquoi faites-vous toutes ces révélations et qu'en attendez-vous ?
Je me suis opposé au travail de la CIA parce que je sentais qu'en Amérique latine, elle rendait les conditions d'injustice encore pires que ce qu'elles étaient.
Pendant les 12 ans à la CIA, qu'est-ce que vous avez fait comme travail que vous trouvez moche?
En fin de compte, je me suis aperçu que tout le travail était désagréable, mais je ne peux pas parler d'un fait particulier pendant ce temps-là qui soit plus remarquable qu'un autre.
Quel est votre but? Vous espérez qu'un jour, la CIA n'existera plus?
Le principal problème n'est pas la CIA, c'est la politique que la CIA exécute. Ce que nous avons à changer, c'est la politique du gouvernement américain qui met en place les Pinochets du monde, comme cela a été fait durant ces 15 dernières années.
Le livre, traduit en 27 langues, connaît un succès mondial, mais provoque aux États-Unis un véritable séisme dans les consciences, déjà bien ébranlé par la déroute au Vietnam et le scandale du Watergate. Les Américains, en découvrant la face noire de la CIA, entrent dans l'ère du soupçon et vont demander des comptes. Intolérable pour la CIA, qui vouera à jamais une haine féroce à Philip Agee. N'y a-t-il pas en effet de pire cauchemar pour un service de renseignement, surtout celui de la plus grande puissance mondiale, de voir un de ses agents déballer en place publique tous les secrets de l'organisation, allant jusqu'à livrer les noms de ses collègues toujours en activité? La haine de la CIA sera tenace. Le 13 avril 2017, donc plus de 40 ans après, c'est en évoquant Philip Agee que Mike Pompeo, le nouveau directeur de la CIA, fraîchement nommé par Donald Trump, ouvre son premier discours public.
J'avais commencé en vous racontant une histoire, celle d'un jeune homme brillant qui avait reçu une bonne éducation. On le disait travailleur, intelligent, aimable, juste un peu impulsif et impatient. À un moment, il a été dégoûté par le travail de renseignement et s'est mis en colère contre son gouvernement. Il a démissionné et a décidé de se vouer à la défense de l'intérêt public, en exposant les officiers de renseignement et les opérations qu'il avait juré de garder secrètes. Il a demandé aux employés de l'agence de lui donner des indices, des conseils. Il a écrit dans une publication accessible au public, je cite, « Nous sommes extrêmement désireux de recevoir anonymement des listes de diplomates américains travaillant dans les ambassades. » Fin de citation. Cet homme était Philip Agee. Il s'est finalement installé en invité privilégié d'un régime autoritaire. Un régime qui l'aurait mis sans hésiter devant un peloton d'exécution s'il avait trahi ses secrets au lieu des nôtres. Aujourd'hui, il y a toujours plein de Philip Agee dans le monde. Et les dommages causés aux institutions américaines et à son personnel sont aussi graves aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. Ils ne viennent pas tous du monde du renseignement, mais ce sont les mêmes.
Un discours prononcé, je le rappelle, en 2017, avec bien sûr Edward Snowden en ligne de mire. Philip Agee, jusqu'à sa mort, sera considéré par les uns comme un traître à sa patrie et par les autres comme un héros de l'anti-impérialisme américain. Pourtant, dans les années 50, comme le remarquait Mike Pompeo, le jeune homme avait tout du gentil garçon promis à une belle carrière. Philip Agee est né en 1935 dans une famille bourgeoise du sud des États-Unis. Une belle maison blanche à côté du golf club, une nounou noire que, petit garçon, il adorait, mais qu'il n'avait pas le droit d'embrasser. Une éducation sous le signe de la discipline, de la religion catholique et d'un patriotisme sans faille. Mais qui laissera des traces ? L'angoisse du péché et de la damnation éternelle, dit-il, ne le quittera jamais. Ce qui aura peut-être une incidence sur ses choix futurs. À 20 ans, comme c'est souvent le cas pour les futurs espions, Philip Agee ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Du droit ou reprendre l'entreprise familiale ? Sur le conseil d'une amie de ses parents, il postule en fin de compte à la CIA. Moins par conviction que pour éviter le service militaire. Aucune envie, dit-il, de passer 2 ans à laver la vaisselle et éplucher des patates. En 1957, à Washington, ayant réussi les épreuves et les tests, Agee est admis à la CIA, où il signe une déclaration s'engageant pour toujours à garder secret, quelles que soient les circonstances, tout ce qu'il a appris à l'agence. Philip Agee a 22 ans, c'est jeune pour débuter une double vie.
Au sein de l'agence, je serai honnête et sincère. Mais à l'extérieur, personne ne saura qui je suis. Ma vie secrète commence.
Après 3 ans de formation intensive, Philip Agee, qui vient de se marier avec Janet, sa petite amie de la fac, est affecté à sa première mission, en Équateur. Ce petit pays coincé entre la Colombie et le Pérou, d'une beauté à couper le souffle, écrit Agee, mais aussi à des plus pauvres d'Amérique latine, marqués par de grandes inégalités et une forte instabilité politique. Le 6 décembre 1960, le jeune couple, après un vol de plus de 10 heures dans un vieux DC-7, atterrit à Quito. L'aventure commence.
Quito, 2850 mètres d'altitude, toute proche de la borne qui marque la latitude zéro. Quito, pittoresque petite ville de style espagnol, image fidèle d'un peuple de 5 millions d'habitants qui vit surtout des produits tropicaux. Les Andes servent de toile de fond au décor de la place de l'Indépendance et tout Quito est là, dans les rues et sur cette place, qui est le cœur de la capitale.
Pourquoi cet intérêt de la CIA pour l'Amérique latine ? Dans ces années de guerre froide, où la politique des États-Unis vise avant tout à contrer l'influence soviétique, une nouvelle menace est apparue en 1959, aux portes mêmes des États-Unis, la révolution à Cuba. Des journalistes du monde entier assistent à La Havane à l'arrivée triomphale de Fidel Castro le 2 janvier 1959.
Et voici Fidel Castro. Il est placé sur une espèce de grande prolonge au milieu de tous ses compagnons. Ils sont tous barbus, comme vous le savez. Ils portent des képis kaki. Castro, je vois Castro. Il est juste devant moi. Il est très grand. Il mesure au moins 1m80, 1m90. Et vous les entendez crier. Ils crient tous « Vive Fidel ! Vive Fidel !» Ça l'a fait une immense rumeur. Et Fidel est là, qui sourit. L'émotion de la foule s'accroît naturellement. Écoutez-les. Ils sont véritablement déchaînés. C'est du délire.
Je sais.
Voilà, il commence à parler. Le calme s'est fait.
Se me presenta una de las obligaciones más difíciles.
L'objectif de la CIA en Amérique latine est désormais clair. Empêcher l'expansion du mouvement révolutionnaire cubain. Par tous les moyens, même les pires. En poste en Équateur, en Uruguay, puis au Mexique, Philippe Egi aura pour mission de faire tomber tout gouvernement qui refuse de rompre ses relations avec Cuba et de favoriser l'arrivée au pouvoir d'alliés des États-Unis. À grands coups de billets verts, Philippe Egi et ses collègues vont s'employer à corrompre des ministres, des diplomates, des syndicalistes. En Équateur, le médecin personnel du président envoie chaque semaine à la CIA un rapport sur son patient. Recruter des indicateurs, infiltrer les partis communistes et les mouvements d'étudiants, installer des micros, propager de fausses nouvelles, fabriquer de fausses preuves pour envoyer en prison des militants de gauche. Favoriser en revanche l'agitation anticommuniste et la préparation de coups d'État. Ils font tant et si bien qu'en Équateur, le gouvernement du président Velasco Ibarra, pas très démocratique mais tout de même élu, tombe en novembre 1961. Et deux ans plus tard, c'est au tour de son successeur, José Mena, qui est renversé par une junte militaire avec la bénédiction de Washington. Le prétexte invoqué par les putschistes, José Mena était trop porté sur l'alcool. Il fallait laver la dignité de l'État. France Inter, le 12 juillet 1963.
Inter, actualité.
Comme vous le savez, les Américains sont très sensibles à tout ce qui se passe en Amérique centrale. En Équateur, en effet, la junte militaire qui a organisé et entrepris la nuit dernière un coup d'État connaît aujourd'hui les premiers problèmes réels de l'exercice du pouvoir.
Les militaires font respecter sur tout le territoire la loi martiale. Ils ont pris la précaution de déposer, d'arrêter et de déporter le président de l'Équateur, José Mena, qui avait la réputation de boire un peu trop. Certains vont même jusqu'à dire que lorsque les putschistes ont franchi la nuit dernière le seuil du palais, eh bien ils ont trouvé le président dans les vignes du Seigneur. Ils n'ont même pas été surpris, car M. José Mena n'en était pas à sa première ivresse.
Merci Jean-Pierre Elkabbach pour cette fine analyse politique. À la CIA, on fête cette victoire au champagne. Philippe Egi, mission accomplie, reçoit une promotion et un nouveau poste. En Uruguay. Philippe et Janet sont heureux. Montevideo, la capitale, est au bord de la mer. Philippe Egi travaille en Uruguay de 1964 à 1966. C'est là que peu à peu vont naître le doute et la culpabilité.
Aldo Rodríguez Camps, encargado de negocios de nuestro país en Montevideo a su llegada a La Habana, detalló las manifestaciones de solidaridad del pueblo uruguayo al despedir la misión diplomática cubana.
Dans un climat d'une grande instabilité politique, entre grève et tentative de coup d'État, la CIA porte main forte à la police uruguayenne dans sa lutte contre les mouvements pro-Cuba. Elle envoie les agents se former aux États-Unis à l'Académie internationale de police. État de siège, le film de Costa Gavras sorti en 1972, raconte l'enlèvement en Uruguay par un groupe d'extrême gauche d'un Américain, Michael Santore, joué par Yves Montand, qui se fait passer pour un simple fonctionnaire de l'AID, l'Agence pour le développement économique, une couverture. Il est en réalité chargé de conseiller les forces de sécurité en matière de répression et de torture. L'Américain est interrogé par son ravisseur, interprété par Jacques Weber.
Vous continuez à m'impliquer dans des affaires qui ne me regardent pas. Il n'empêche que vos élèves de l'Académie sont dénoncés comme tortionnaires.
Ça ne prouve rien.
Voici le programme de l'Académie. En 5 semaines de cours, il est beaucoup question dans ce programme de guerre révolutionnaire. D'Algérie, de Cuba, du Vietnam. Il est beaucoup question aussi de grève, de manifestations, de syndicalisme, d'explosifs. Après le stage à l'Académie de Washington, il y a un cours de spécialisation au Texas, dans un village abandonné, près de la frontière mexicaine. 8 policiers y sont allés se spécialiser en explosifs. Attentat de provocation, la foule réagit, la police intervient.
Vous n'êtes pas un fonctionnaire quelconque, monsieur Santoré. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture.
Philippe Eggi n'est pas le Michael Santoré du film de Costa Gavras, mais dans son livre, il racontera plus tard ce jour du 12 décembre 1965, un jour en apparence ordinaire où il se rend avec un collègue de la CIA au bureau du colonel Rodriguez, chef de la police de Montevideo.
Nous nous sommes installés autour d'une table. Le colonel Ramirez suivait un match de football sur un petit transistor. Pendant que Rodriguez lisait notre rapport, nous avons commencé à entendre des sons étranges, très graves et de plus en plus forts, que j'ai fini par identifier comme des gémissements humains. Rodriguez a demandé à Ramirez de forcer le son de la radio. J'ai fini par comprendre qu'on torturait quelqu'un dans une salle en dessous. Pourquoi n'ai-je rien dit ?
Philippe Eggi est d'autant plus choqué qu'il se demande si l'homme torturé n'est pas celui dont il avait livré le nom la veille à la police.
Cette voix va me poursuivre longtemps.
Et quand en 1966, il s'apprête à quitter Montevideo, quelque chose a changé. Il ne s'identifie plus aux objectifs de la CIA ni à ceux qui y travaillent. Mais c'est au Mexique, où il part en 1968, qu'adviendra la rupture. Comme couverture, Eggi est un attaché culturel américain pour les Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir en octobre. En réalité, l'espion doit infiltrer les milieux intellectuels de gauche suspectés de sentiments pro-Cuba. Mais en septembre-octobre, les étudiants mexicains descendent en masse dans la rue. Des manifestations qui seront réprimées dans le sang par l'armée. Plus de 300 morts, un véritable massacre. Avec la bénédiction de la CIA, affirme Eggi.
Les exigences des universitaires portent sur des points précis. L'abrogation de l'article 145, qui autorise l'arrestation arbitraire. Le respect de l'autonomie de l'université. La démission de 3 chefs de la police. La recherche des responsables de la répression. La dissolution du corps des Granaderos. Et la remise en liberté des prisonniers politiques. L'armée et les granaderos ont évacué l'université et les grandes écoles. Mais aux abords de ces établissements, des affrontements souvent sanglants éclatent avec une soudaineté et une violence étonnante. La nuit dernière, il y a eu 40 morts et de nombreux blessés.
Ces événements confirment Philippe Eggi dans sa décision de démissionner.
Après 12 ans à la CIA, j'ai finalement pris conscience des souffrances dont elle était la cause. Que des millions de gens dans le monde avaient été tués ou avaient eu leur vie détruite par la CIA et les institutions qu'elle soutient.
Après sa démission en 1969, Philippe Eggi devient étudiant à Mexico et se radicalise. Il se sépare de Janet et rencontre une autre femme.
Je suis tombé amoureux d'une femme qui pense que Che Guevara est l'homme le plus extraordinaire du monde et que c'est la CIA qui est responsable de sa mort.
Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest.
You
En 1970, alors que partout dans le monde, des jeunes manifestent contre la guerre au Vietnam, Philippe part vivre en Angleterre. C'est là, bien décidé, dit-il, à aider le mouvement pacifiste, qu'il commence la rédaction de son livre. D'une écriture assez ennuyeuse, on peut le dire, mais remplie d'informations inédites, journal d'un agent secret qui sort à Londres en 1975 et vit un best-seller. Aux États-Unis, où la censure est rare, le livre est interdit à la vente pendant 6 mois. Mais on parle de lui sur Radio Pacifica, une radio militante.
Ce soir, une interview en longueur de l'ex-agent de la CIA, Philip Agee. L'auteur du livre Journal d'un agent secret qui est actuellement interdit à la vente aux États-Unis.
De quelle manière votre opinion a-t-elle changé sur la CIA? Et comment êtes-vous devenu anticapitaliste?
J'ai vraiment commencé à m'interroger sur les activités de la CIA quand j'étais en Uruguay. Ce que j'ai vu là-bas, c'était une incroyable corruption du gouvernement et des cercles financiers privés. Et dans le même temps, nous développions leurs forces de sécurité, militaires, de renseignement et de police. En faisant cela, nous renforcions ce gouvernement corrompu et incapable.
Le livre, qui dévoile les activités secrètes de la CIA, tombe très mal pour l'agence de renseignement américaine, déjà en pleine crise identitaire. La même année, à Washington, des commissions ont été créées par le Sénat et la Chambre des représentants pour enquêter sur le rôle de la CIA dans l'affaire du Watergate et dans le coup d'État de Pinochet au Chili. D'autres livres sortent à la même époque qui dénoncent les excès de la CIA. Mais Philip Agee va plus loin. Dans ce livre et dans d'autres brochures, Agee donne des noms. Les noms d'agents ou d'indicateurs de la CIA, parfois toujours en exercice. Dans le but, dit-il, non pas de mettre leur vie en danger, mais de neutraliser leur action et donc celle de la CIA. L'événement qui va déclencher la haine éternelle de la CIA contre Agee, c'est la mort du directeur de la station en Grèce. Le 25 décembre 1975, alors qu'il rentre en famille d'une fête de Noël, Richard Welch est assassiné à Athènes par un groupe terroriste d'extrême gauche. George Bush père, qui un jour deviendra président des États-Unis, dirige la CIA de 1976 à 1977. 20 ans plus tard encore, il ne pardonne pas.
Souvenez-vous de Philip Agee. Je le considère comme traître à notre pays. Ce type encouragea la publication de noms d'agents secrets qui sacrifiaient leur vie. Et le magazine Counter Spy a publié ces noms, parmi lesquels celui de Richard Welch, notre chef de station à Athènes, qui, peu de temps après, fut abattu en Grèce, devant chez lui.
Plus tard, Ronald Reagan fera voter une loi qui criminalisera le fait de révéler l'identité d'agents secrets américains. Philip Agee, lui, niera toujours avoir livré le nom de Richard Welch. Sous la pression des États-Unis, il est expulsé de Grande-Bretagne en 1976. N'empêche, l'ex-espion est maintenant une célébrité, soutenue par des personnalités comme Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gabriel Garcia Marquez, Jane Fonda ou Costa Gavras. En février 1976, de passage en France pour la promotion de son livre qui paraît au Seuil, il est l'invité de France Inter.
Il y a deux choses que l'on peut faire. Nous pouvons essayer de changer la politique à l'intérieur des États-Unis et nous pouvons essayer d'affaiblir les instruments de cette politique.
Vous pensez que ce que vous faites permettra de changer la politique des États-Unis?
Je ne sais pas. Une personne seule ne peut changer la politique d'un pays. Il ne semble pas que la politique soit en train de changer actuellement, mais j'espère bien qu'elle changera.
Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie et vous ne pensez pas que vos anciens collègues ont envie de vous faire taire à jamais?
J'ai eu mes problèmes avec eux, et particulièrement à Paris, où j'ai été très souvent suivi. Mais j'ai pu me débarrasser de mes suiveurs, et je n'ai pas actuellement de crainte spéciale.
Finalement, vous êtes un traître?
Pas du tout. En fait, je pense que c'est la CIA qui trahit les meilleurs intérêts et les meilleures traditions des États-Unis, et non pas moi.
La CIA, en effet, ne cesse de surveiller Edgy. Il est filé, écouté. Il découvre un jour que la machine à écrire qu'on lui a prêtée est truffée de micros. La CIA fait courir le bruit que s'il a quitté l'agence, c'est contraint et forcé à cause de son penchant pour l'alcool et pour les épouses des autres. Mais rien de tout cela ne semble pouvoir l'arrêter. En août 1977, à Bruxelles, Edgy rend public son projet pharaonique, créer une banque de données mondiale de tous les individus liés à la CIA depuis 30 ans. Ceci explique-t-il cela? Quelques jours plus tard, Philippe Edgy est refoulé à la frontière alors qu'il tente d'entrer en France. En 1979, son passeport américain n'est pas renouvelé. Commence une longue errance qui le conduira à Grenade, au Nicaragua. Et enfin, grâce à son mariage en 1990 avec une Allemande, sa double nationalité lui permet de vivre entre l'Allemagne et Cuba. C'est là qu'il va terminer sa vie, à Cuba, où il ouvre une agence de voyage, tout en continuant à prêcher la bonne parole. En 1997, Philippe Edgy est accueilli en héros au Festival de la Jeunesse de Cuba.
My name is Philip Edgy.
Conocemos que fue usted invitado.
Rappelons que vous avez été invité par le mouvement pour la paix et la souveraineté des peuples, car vous alliez publier un essai sur la guerre de la CIA contre le Che.
Oui.
Il y a peut-être des gens ici qui connaissent la mauvaise nouvelle. C'est que j'étais dans la CIA dans les années 50 et 60. J'ai démissionné en 68. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai travaillé de manière très rapprochée et solidaire avec Cuba pendant les 25 dernières années. Et j'espère que cela compense un petit peu.
Forcément, on s'interroge. Depuis quand Edgy était-il l'ami de Cuba? Depuis 25 ans vraiment? Lui qui a toujours prétendu agir seul, qui a toujours nié travailler pour les soviétiques ou pour le régime castriste. A-t-il été poussé vers le seul endroit qui était prêt à l'accueillir? Ou bien a-t-il tout simplement menti? Vassili Mitrokhin, un ex-espion russe, auteur avec Christopher Andrew de plusieurs livres sur le KGB, y donne de Philippe Edgy une image peu angélique. Il affirme qu'en 1973, Edgy a approché le résident du KGB à Mexico pour lui proposer ses informations sur la CIA. Le résident russe, trouvant la mariée trop belle, n'aurait pas eu confiance et l'aurait mis à la porte. Edgy, alors, serait allé voir les Cubains, qui, eux, l'auraient accueilli à bras ouverts. Le KGB, on l'imagine, s'en serait mordu les doigts. Mais il va se rattraper. Mitrokhin affirme en effet que c'est l'Union soviétique qui a fourni à Philippe Edgy, du moins en partie, les listes d'agents de la CIA à publier dans ses livres et revues. En 1975, à Londres, le KGB aurait également joué un rôle moteur dans la campagne d'opinion qui a suivi la publication de son livre « Journal d'un agent secret », en incitant des journalistes, des syndicats et même des députés travaillistes à prendre position en faveur d'Edgy et contre son avis d'expulsion. Alors, qui ment? Edgy ou le KGB qui chercherait a posteriori à se donner le beau rôle? seule certitude, Philip Agee a dénoncé les crimes des États-Unis, mais jamais ceux de l'URSS ou de Cuba. Et s'il avait été un espion russe révélant au monde les secrets soviétiques, il est probable que le KGB n'aurait pas laissé ce traître vivre si longtemps. Philip Agee, lui, est mort dans son lit, à 72 ans, le 7 janvier 2008, à La Havane. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.